Chapitre 50. Sélénée. Sabie et Valère, après avoir longé le lac et sa rivière, avancèrent dans une nouvelle clairière.
Valère n'est pas un si mauvais guide,
devait admettre la Lolly Girl. Il l'avait ramenée à l'endroit précis où, un an plus tôt, ils avaient fêté l'anniversaire de Lupa. Elle reconnaissait la gigantesque termitière, haute de près de 2 mètres. Sabie se pencha pour ramasser une branche de châtaignier, alors que derrière elle, l'historien se lamentait, lassé de tourner en rond.
« Luponera ne nous répondra pas, »
gémissait-il.
« Je le sais. On perd notre temps. Je suis sûr qu'elle nous épie, là, quelque part, et qu'elle nous...
Attention !» Sabie fit tournoyer son bâton au-dessus de sa tête. Valère se poussa juste avant de se faire embrocher.
« Luponera !»
cria sans hésiter la Lolly Girl.
« Premier avertissement ! Sors de là !»
Valère redressa ses lunettes sur son nez. Il hésita même à attraper les dernières tiges de jusquiame noire dans sa poche. Il ne ressentait plus l'addiction à la spide verte, mais, en cas de crise, les herbes infâmes auxquelles son palais avait fini par s'habituer l'apaisaient.
« Qu'est-ce que tu... »«
D'accord, Lupa !»
poursuivit Sabie, sans l'écouter. Elle s'agitait telle une furie au milieu de la clairière déserte.
« Tu l'auras voulu !»
Valère se demandait ce que la Lolly Girl manigançait et comment elle comptait, armée d'une simple branche de châtaignier, faire sortir l'enfant louve de sa retraite. Sabie s'avança d'un pas vers la termitière, souleva son bâton et, d'un coup digne des meilleurs manieurs de beau, en décapita 10 bons centimètres. Une nuée d'insectes jaillirent et voltigèrent, paniqués, avant de disparaître dans l'herbe. La tour de terre grouillait de termites zigzagant dans tous les sens.
Regarde, Lupa! Ce chef-d'œuvre de la nature est fragile! Un simple petit tremblement de terre et patatras!
Elle leva à nouveau sa branche au-dessus de sa tête.
Tu tiens plus à tes insectes qu'aux êtres humains, c'est ça? Alors montre-toi, si tu ne veux pas que je génocide tes cloportes!
Valère et Sabie scrutèrent les alentours, les épais feuillages des châtaigniers, les sommets effilés des pins, les lourdes branches de saules pleureurs au-dessus du lac. Personne.
Deuxième avertissement! Tête de buse!
Lança la Lolly Girl. Elle explosa à coups de bâton 20 autres centimètres de la termitière. La colonne de terre ressemblait à un immeuble ravagé par un séisme. Plafond crevé, murs effondrés, minuscules chambres minutieusement aménagées s'écroulant les unes sur les autres, laissant des milliers d'habitants surpris, sans abri. Sabie, branche en main, continuait de provoquer les arbres, les fleurs et les fougères.
Elles ont mis combien de temps, tes fourmis géantes, pour construire ce palais de dingue? 100 ans? 1000 ans? Et en 2 secondes, je peux l'exploser! Tu vois? Comme l'humanité! 2 secondes, c'est le temps qu'il a fallu pour la liquider! Alors, montre-nous ton museau, Luponera! On a besoin de toi!
Les feuilles bruissaient au vent léger. Les insectes butineurs papillonnaient, indifférents au drame qui se jouait. La forêt paraissait prodigieusement se moquer de la colère de la Lolly Girl.
« Je sais que tu nous regardes !»
affirma Sabie. Elle lâcha sa branche pour ramasser une grosse pierre, la souleva et la tint à bout de bras au-dessus de la termitière.
« Dernier avertissement ! Tes blattes vont bientôt se prendre une météorite sur la tête sans comprendre ce qui leur arrive !»
Valère s'apprêtait à réagir quand Luponera se matérialisa au milieu de la clairière sans qu'aucune branche d'arbre ou aucune fougère ait bougé. Elle réalisait ce prodige chaque fois, mais l'historien ne parvenait pas à s'y habituer. D'ailleurs, la fille Louve ne semblait pas avoir remarqué l'historien et s'adressa directement à Sabie.
« Lâche cette pierre. Ces termites ne t'ont rien fait ?»
Sabie grimaçait, la pierre au bout de ses bras commençait à peser 1 tonne.
« Ah, te voilà! Dès qu'il s'agit de défendre les mouches et les scarabées, tu te pointes! Mais t'en as rien à faire des humains !»«
Voilà, » confirma Luponera. « T'as tout compris. »
La pierre cisaillait les mains de Sabie, mais elle continuait de résister, penchée au-dessus de ce qui restait de la termitière.
« T'es pas sourde, Lupa? T'as forcément entendu du bruit dans la ville! Des coups de canon! Des cris!
Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des morts aussi.
Et alors ? Fit Louponera en haussant les épaules. En quoi ça me regarde ?
La Loli Girl manqua de lâcher sa pierre. Elle la retint in extremis du bout des doigts.
En quoi ça te regarde ? Mais t'es aveugle ou quoi ? Après la guerre, quand ils auront fini de s'entretuer, ils s'attaqueront à la forêt. Tu comprends pas qu'ils s'arrêteront jamais ?
Qui ça ? Ils ?
Les mégalos du ciboulot ! Les accros du pouvoir ! Les enragés qui veulent régner ! C'est Mordelia qui tenait la couronne cet hiver, mais ton frérot jumeau, Ogénor, ne vaut pas mieux. Je ne crois pas qu'il ait hérité de ton amour pour les coccinelles et les petits oiseaux.
Sabine avait qu'une envie, balancer ce rocher assez loin pour éviter qu'il ne lui écrase les orteils. Elle détesta le sourire que Louponera lui adressa.
Eh bien, tu vois, cette guerre est stupide. Si aucun vainqueur ne vaut mieux qu'un autre, mieux vaut rester en dehors.
La Loli Girl lança la pierre aussi loin qu'elle le put, épargnant les termites affolées à ses pieds, à l'exception de ceux qui commençaient à grimper le long de ses jambes, qu'elle envoya valser avec énervement.
« Non !»
explosa Sabi.
« Non ! Tu ne peux pas rester en dehors ! Ouvre les yeux, Lupa ! Des tas de gens sont arrêtés, torturés, assassinés ! J'ai passé 3 mois en prison, et Valère 3 mois de plus ! Les Prémas sont réduits en esclavage ! Bourré de drogue, et ça va continuer, que Mordelia reste sur le trône, ou qu'Ogénor le lui pique. Tu es la fille de Marie-Lune. Tu es la seule qui peut défier ces deux tarés.
Louponera, rassurée que les insectes survivants soient épargnés, s'était radoucie.
Je suis désolée, Sabi. Je ne peux pas désobéir à mon père. Il m'a fait promettre de ne pas me mêler de vos histoires.
Sabi, exténuée, à bout de nerfs, s'effondra dans l'herbe, au milieu des fourmis et des termites, des sauterelles, des papillons, de toute cette vie qui grouillait, indifférente au malheur du monde nouveau. S'était-il même aperçu qu'on en avait changé ? Pensa-t-elle. Est-ce que, au fond, cette louve n'avait pas raison ? Pourquoi résister ? Pourquoi lutter ? Si les ados voulaient Ogénor comme roi, s'ils étaient assez stupides pour ça, pourquoi les en empêcher ? Qu'ils se débrouillent. Le monde était assez grand pour qu'elle puisse se réfugier loin d'eux, avec Akan, avec ses amis, avec sa fraise des bois.
Ogénor ferma la porte de la chambre derrière lui. Le bébé, dans son couffin, poussa un nouveau cri. Le grand cerf fixa quelques instants le visage fatigué de Mordelia, allongé dans son lit aux draps rouges. Sans prononcer un mot, il fit rouler son fauteuil vers la pièce de droite, uniquement séparée de la chambre par un épais rideau tendu. L'alcôve avait été décorée d'étranges motifs, à la fois enfantins et magiques. Des fleurs inconnues, très colorées, étaient dessinées sur les rideaux. Des mobiles de planètes pendaient au-dessus du berceau. Des licornes en peluche arc-en-ciel veillaient, perchées sur les étagères d'une armoire en pin mauve. Le couffin était posé au milieu d'un épais tapis étoilé. Ogénor s'approcha du nouveau-né qui continuait de pleurer.
« C'est une fille ? Ou un garçon ? » demanda-t-il entre deux cris.
« Une fille, » répondit Mordelia d'une voix lasse. « Notre fille. »«
Bien, » apprécia Ogénor. « Très bien. Elle portera la vie. »
Le grand cerf resta un long moment à admirer son enfant. Chaque détail de ce petit être le fascinait. Ses yeux ronds et noirs, cette bouche rose entrouverte, cherchant un sein invisible. Ce corps miniature déjà parfait jusqu'à chaque doigt, chaque ongle de chacune de ses petites mains potelées.
« Une fille, » pensait Ogénor. « Ma fille. »
Elle pleurait de moins en moins fort, luttait contre le sommeil comme si déjà elle ne voulait rien rater de la vie qui lui était offerte. Ne surtout pas fermer les paupières, ne surtout pas se priver de ses couleurs, de ses mouvements, de ses lumières. La fatigue était trop forte pourtant, et d'un coup le bébé s'endormit. Ogénor resta à contempler le mince souffle de vie se faufilant entre ses lèvres, ses petits poings crispés, comme fermé sur un trésor minuscule et invisible, son ventre, qui,
à un rythme calme et régulier, se soulevait. Elle était parfaite.
Augénor recula avec précaution, veillant à ce que les roues de son fauteuil fassent le moins de bruit possible sur le sol de pierre, puis se dirigea jusqu'au chevet de Mordelia.
« Sélénée s'est endormie ?» demanda Mordelia.
« Sélénée. »
« Sélénée est la déesse de la lune, la sœur du soleil. Tu vas lui enlever sa maman, laisse-lui au moins son prénom. »
Augénor se rapprocha encore du lit. Les roues de son fauteuil touchaient presque les draps.
« Ta merveilleux prénom, elle le portera merveilleusement. »
Mordelia paraissait épuisée. Son visage s'était creusé. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans pendant l'accouchement. Ses cheveux blancs pendaient tristement, tels ceux d'une femme âgée qui ne fait plus l'effort de se coiffer. Elle parvint tout de même, en grimaçant de douleur, à se redresser, le dos contre son oreiller écarlate.
« Mais tu lui enlèveras sa maman. Tu ne peux pas faire autrement, je l'ai compris, dès que tu t'es échappé de ce donjon. Tu contrôlais tout, n'est-ce pas ? Tu m'as manipulé une nouvelle fois, depuis le début. Depuis que tu as fait semblant de me pardonner il y a 2 ans. Depuis que tu m'as offert cette couronne de reine et que tu m'as fait croire que je pouvais prendre le pouvoir. Tu as pris un sacré risque, Augénor. Te laisser emprisonner, toi et tes ministres, m'abandonner les rênes du nouveau monde, m'offrir le contrôle des prémats et de la garde civile. »
Augénor se redressa lui aussi dans son fauteuil roulant. Il repéra sa canne au diamant dans un coin de la pièce. Une expression de triomphe se dessina sur son visage.
« Quel risque ! J'avais en permanence une longueur d'avance. N'oublie pas, je planifie tout, toujours. J'ai su dès le début que tu bluffais pour les gardes civils, que tu conservais quelque part la liste de leurs matricules et de leurs identités. » Il ne devenait pas difficile alors de savoir où tu la cachais, ni comment la récupérer.
Sous le matelas de mon lit, murmura Mordelia. C'est moi pourtant qui ai fait le premier pas, qui désirait un héritier.
Augénor observa avec une morgue froide les traits tirés de la sorcière.
Tu te trompes une nouvelle fois. Cet héritier, je le désirais davantage que toi. Et pour cela aussi, j'avais besoin de toi.
Mordelia s'autorisa un sourire mélancolique.
Admettons. Ce sacrifice-là, je peux le comprendre. Ce n'était pas si désagréable que cela, n'est-ce pas? Mais que tu aies pu sacrifier volontairement 3 mois de liberté pendant l'hiver de fer, pour croupir dans une cellule gelée. »
Augénor se redressa encore dans son fauteuil, raide d'orgueil.
« 3 mois, qu'est-ce que cela représente, Mordelia, face à l'éternité d'un nouveau monde? Le nôtre, celui de Sélénée, celui de ses futurs enfants et petits-enfants. Cet hiver de fer, comme tu l'as appelé, était nécessaire. J'avais besoin d'une véritable ennemie. Et qui d'autre que toi aurait pu aussi bien interpréter ce rôle? Il me fallait quelqu'un que tout le nouveau monde puisse détester. Tu comprends? Une véritable méchante, comme dans les contes de fées. Une vraie sorcière. Et celui qui parviendrait à sauver le monde de ses griffes serait un héros à jamais. Un prince, un roi, un empereur. Tout ce qu'il voudrait. Nous sommes exactement arrivés à ce moment de l'histoire, Mordelia. Il me sera beaucoup plus facile d'obtenir les pleins pouvoirs après cette guerre de libération que j'ai triomphalement remportée. Comme Napoléon après la terreur. Et j'oubliais. J'avais aussi besoin de toi pour éliminer les gêneurs les plus encombrants. Jacques, bien sûr. Et Chrysante, évidemment. Et Alix, Zizo et tous les autres. Oh, tu m'as déçu, Mordelia. J'attendais de toi beaucoup plus de cruauté.
« Vraiment, va me chercher un couteau et approche-toi. Je suis certaine de trouver la force de t'égorger. » Eugénor se força à rire.
Tu es courageuse, Mordelia. Personne ne pourra jamais te retirer ça. Fière et déterminée. J'espère que Séléné aura les mêmes qualités. Je sais que tu es fatiguée. L'accouchement a dû t'épuiser, mais avant de te laisser te reposer, j'ai une dernière question à te poser. Un détail important dont toi seul possèdes la clé.
La main de Mordelia baignait dans le drap ensanglanté. La reine la releva et pointa un doigt rouge en direction de l'ado handicapé.
Le livre de Pierre Sol, c'est bien ça. Ce cahier que j'ai volé et que tu as brûlé, bien entendu, ça te préoccupe. Tu veux savoir si j'ai percé ton secret ?
Eugénor se crispa.
Je veux seulement savoir ce que tu y as lu, à propos de moi, de Céleste et de Marie-Lune.
Mordelia se fit soudain plus câline.
Viens, penche-toi vers moi, je vais te dire.
Le grand cerf, avec précaution, inclina la tête dans sa direction. Dès qu'il fut suffisamment proche, Mordelia lui cracha au visage.
« Voilà mon secret. Tu n'es qu'un ver de terre, un serpent condamné à ramper dans la poussière. Oui, tu n'es qu'un immonde pervers et tu n'as pas d'autre choix que de me tuer. Sinon, j'accorderai à cette chère Constelle un entretien exclusif pour qu'elle puisse réécrire noir sur vert tout ce que contenait ce cahier. »
Eugénor perdait son calme, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. Ses mains se contractaient sur les accoudoirs de son fauteuil.
« Tout quoi ? » ricana-t-il. « La nuit de la pyramide ? Les cadavres du cimetière de Picpus ? J'ai brûlé ce cahier. Personne ne te croira. Et à la limite, même si c'était le cas, cela n'aurait aucune importance aujourd'hui. Tout le monde se moquera du passé. N'oublie pas que j'ai vaincu la terreur. Je suis le libérateur !»
Eugénor tremblait néanmoins de peur. Mordelia s'en apercevait et poussa encore l'avantage.
« Je ne te parle pas de cela, et tu le sais très bien. La nuit de la pyramide n'est qu'un détail. Je te parle de ton vilain petit secret caché dans ce cahier. Cette vérité que je suis seul à connaître, avec Chrysante peut-être. »
Eugénor commençait à perdre le contrôle de ses nerfs.
Tu n'es pas assez stupide pour avoir laissé la vie à cette petite garce.
Donc, puisque je suis la seule à connaître ton grand mensonge, tu vas devoir me tuer. Car si je le révèle, tout le monde me croira cette fois. Mon pauvre, c'est d'une telle évidence quand on connaît la vérité.
Eugénor s'efforça de se calmer, de reprendre ses esprits et de retrouver toute son ironie.
Vraiment, Mordelia, c'est si gentiment demandé.
Avec une rapidité foudroyante, les deux mains du grand cerf se soulevèrent des accoudoirs et entourèrent le cou de la sorcière. Il plaça ses deux pouces sur la veine jugulaire et serra le plus fort possible.
« Quel dommage !» grimaça-t-il. « Séléné ne connaîtra jamais sa maman !»
Mordelia agonisait. Ses bras balayaient le vide, tentaient de s'accrocher au fauteuil roulant, de saisir un pan de la chemise de Génor avant de se crisper sur les plis des draps ensanglantés.
« Tu... »
redouilla la reine.
« Tu as toujours été... était... trop sûr de toi. »
Eugénor aperçut trop tard l'expression de triomphe s'afficher sur le visage de Mordelia. Déjà, le bras de la reine jaillissait des draps, serrant la corne brisée d'antilope, et l'enfonça dans l'épaule du grand cerf. Eugénor hurla. Essaya de se dégager, mais Mordelia ne le lâchait pas.
« Un petit souvenir que Bill m'a laissé !»
Elle frappa une seconde fois, tailla dans la hanche du garçon. Il hurla à nouveau, incapable de reculer. La douleur le clouait sur son fauteuil. Mordelia leva à nouveau sa corne, visant le cœur cette fois.
« Non !»
La porte de la chambre s'ouvrit à la volée. Une ombre surgit. La flèche siffla et atteignit Mordelia en pleine poitrine. Bras en l'air, bouche déformée par la douleur soudaine, yeux grands ouverts, elle s'écroula dans les draps de sang et de soie.
« J'ai entendu un cri !»
s'excusa Jeanne d'Arc.
« J'ai jugé qu'il était de mon devoir de tirer !»« Ça l'était !»
se contenta de répondre Eugénor.
Le grand cerf tentait de surmonter sa douleur, de ne pas penser à son épaule ensanglantée, à sa hanche à vif.
Cette sorcière avait failli le piéger, mais les blessures infligées par la corne n'étaient pas mortelles. La douleur disparaîtrait.
« Jean !»
ordonna Augénor.
« Conduis-moi vers mon enfant !»
Le soldat se plaça derrière le fauteuil et le poussa en direction de la pièce adjacente. Ils disparurent derrière le rideau. Le grand cerf ne se retourna pas. Pas une fois, il n'eut un regard pour Mordelia. Alix et Zizot s'étaient tous les deux assis sur la carte de Paris. Ils surplombaient les rues et les monuments de la capitale, un peu comme s'ils s'étaient confortablement installés dans un nuage, doré par le soleil à travers la coupole au-dessus de leur tête. Ils bougeaient le moins possible, pour éviter que leurs ombres n'assombrissent le plan et ne rendent illisibles les noms qu'ils tentaient de déchiffrer. Alix restait toujours bloqué, front plissé, concentré sur son idée. Zizot patientait, cherchant vainement des traces de moulins autour de la Seine ou des différents canaux de la ville.
« Alors ?» finit par craquer l'adolescent. « C'est quoi ton idée ? Tu comptes dans ta tête les 8 moulins sublimes ? T'en as trouvé combien ?»
Alix leva à nouveau la main pour signifier à Zizot qu'il n'avait pas besoin de la harceler de questions.
« Une seconde, oublie un peu les moulins, et demandons-nous pourquoi ils utilisent ce mot bizarre, sublime. »«
Parce que ces moulins sont les plus beaux, » suggéra Zizot. « C'est ce que signifie sublime, non ?»« Quand je te dis que t'es une fille sublime, c'est bien ce que je veux dire. »
Alix posa un baiser sur les lèvres de son amoureux.
« Merci, ma petite souris. Mais sublime, ça peut faire référence à autre chose. Un truc de savant. Sublimer. La sublimation. »
Zizot roula des yeux de cancre que sa bille n'aurait pas renié.
« La sublimation ? Jamais entendu parler. »
« C'est un vieux souvenir de mes cours de physique, » poursuivit Alix. « Pour te résumer, il existe plusieurs états de transformation de la matière. La transformation du solide au liquide, on appelle ça la fusion. Du liquide au gaz, c'est l'évaporation. Du gaz au liquide, c'est la condensation. Mais quand on transforme directement de la matière solide en gaz...
« C'est possible ?» l'interrompit Zizot.
En physique, oui, si on chauffe la matière solide à la bonne pression, ce qui demande beaucoup d'énergie, et ça s'appelle la sublimation.
Zizot siffla entre ses dents, admiratif.
C'est toi qui es sublimissime. Et à ton avis, ma reine encore plus savante que les savants, est-ce qu'un moulin pourrait fournir assez d'énergie pour sublimer un truc? Je sais pas, genre transformer un caillou en vapeur d'eau?
Alix tordit son cou vers le ciel. Les nuages s'accumulaient au-dessus d'eux. Le vent jouait aux bergers et rassemblait les moutons en un épais troupeau blanc.
Un moulin, petit barbare, c'est juste un truc qui tourne avec une roue ou des ailes. Donc, pour te le dire autrement, un truc qui produit de l'énergie. Et après, tu en fais ce que tu veux. Écraser des grains de blé pour faire de la farine, des graines de tournesol pour faire de l'huile... ou faire tourner une turbine pour produire de l'électricité.
Ou chauffer une matière solide à la bonne pression jusqu'à la sublimation.
Alix se déplaça sur la carte et posa ses fesses pile sur le tipi.
Théoriquement, oui.
Les micro-éoliennes de dernière génération, avant le passage du nuage, étaient très puissantes. D'ailleurs, Marie-Lune en parle dans son discours sur le Dides. Ce sont plus ou moins les mêmes que Liu a mis en place pour rétablir l'électricité dans la ville.
Sauf qu'à côté de ces moulins, Liu n'a pas caché un gros bloc de pandorite.
Alix baissa les yeux vers la légende de la carte géante et lut une nouvelle fois les 8 moulins sublimes.
Tu crois que c'est ce qui s'est passé? Que ces moulins sublimes sont en fait 8 machines infernales cachées dans Paris par ces dingues de la team Néo pour produire leur gaz maudit à partir de cette foutue roche jaune?
Zizot rampa, lui aussi, et s'assit sur la pyramide du château.
On dirait bien, sauf qu'on n'a aucune idée des endroits où ces moulins sont cachés.
Alix étira ses jambes pour les dégourdir jusqu'au bois de Boulogne.
Et si la clé, c'était ces fameux 4 traits?
Elle se leva d'un coup, retourna vers l'armoire de l'architecte et revint avec 4 règles de fer. Elle l'éteint un moment dans son poing, puis
puis les laissa tomber sur la carte comme un jeu de Mikado géant. Les règles carillonnèrent avant de s'immobiliser.
« À toi de jouer, »
fit l'adolescente.
« Tu parles, on a déjà tout essayé. Le carré, le losange et même la pyramide, on tourne en rond. »
« Pas facile avec quatre droites.
»« C'est ça, fais ta sublime savante. » Alix lui tira la langue. Elle essayait de rapprocher les règles de fer du seul indice fourni par la carte, la croix dessinée sur le sanctuaire, puis de composer des tracés aléatoires. Elle persévéra de longues minutes, toujours accroupie sur le plan, avec l'impression d'être une architecte construisant des ponts gigantesques entre les monuments. Finalement, après avoir essayé de multiples combinaisons, elle renonça et envoya valser les règles.
« Je ne comprends rien !»
s'énerva-t-elle. « Désolée, ta sublime savante est dépassée. »«
Attends !»« Attends quoi ?»
Zizo s'était agenouillé sur la carte, à hauteur du sanctuaire, comme s'il priait.
« Je crois que j'ai trouvé !»
Il ramassa nerveusement les quatre règles, les colla entre elles et les serra dans son poing, en les tenant bien au milieu, telle une poignée de spaghettis. Il les fit glisser ensuite, en les écartant avec précaution, tout en veillant à ce que les quatre règles se croisent au centre.
« Regarde, ma sublimette! Ça te fait penser à quoi ?»
Alix se statufia au-dessus de la très grande bibliothèque, la bouche ouverte.
« Par Marilu, par toutes les étoiles du ciel, on dirait les ailes d'un moulin ?»«
Exact !» triomphait Zizo.
« Et l'axe de rotation, c'est le sanctuaire !»
L'adolescente continuait de fixer la forme géométrique dessinée sur la carte, fascinée.
« Quatre ailes, » fit-elle. « 8 sommets, tout comme il y a 8 moulins. Il ne reste plus qu'à calculer le bon angle d'écartement entre les ailes pour les trouver ?»
Elle avança à quatre pattes en pataugeant dans la Seine pour rejoindre son amoureux.
« T'es le meilleur, mon petit barbare. Des tas de savants se sont penchés sur cette énigme des quatre bâtons. Liu, Valère, Lunella. Et tu es le premier à l'avoir résolu. Tu as bien mérité un bisou. »
Zizo savoura le baiser. « Merci, ma petite princesse. Mais je ne sais pas si je le méritais. Cette énigme, je ne suis pas le premier à l'avoir trouvée. »
« Quoi ?»
Alix s'écarta, surprise. Zizo lui prit doucement la main.
« Allonge-toi à côté de moi. J'ai une histoire à te raconter. »